et doux qu'il accueille. Les chevaux se retournent parce qu'ils ont entendu le zip de la fermeture de la tente. Ils regardent dans sa direction. Enis, oui. La première chose, c'est d'aller les saluer, les caresser. Sibylle a un peu froid, mais l'air frais lui fait du bien. Ce matin, comme tous les matins, elle prend du papier toilette, cherche un endroit où elle peut se mettre à l'abri des regards, à l'abri de Samuel, s'il lui venait à l'idée de se lever en même temps qu'elle, ce qui n'arrive pratiquement jamais. La première fois qu'elle avait raconté son rêve à Samuel, elle avait parlé de ce cheval ailé, de la route, métaphore peut-être un peu convenue de la vie et de la mort, avait-elle suggéré, mais elle n'avait rien dit du casque de moto. Elle avait préféré parler de ce cheval ailé, parce qu'il n'est pas étonnant de rêver d'un cheval, même aussi blanc et ailé, dans ce pays où l'on passe sa journée avec eux. On connaît, parce qu'on les a lus avant de partir, toutes les histoires sur les chevaux du Fergana, dont on a dit pendant des siècles qu'ils suaient du sang, qu'ils étaient le résultat de métissage de juments domestiques et de dragons, ou d'un dragon et d'une licorne blanche. Elle ne redoutait pas la nuit, parce qu'elle pensait encore dans les premières semaines que ça ne durerait pas. Des rêves, des souvenirs. Des souvenirs que venaient soudain coloniser des rêves, d'étranges scènes qu'elle ne comprenait pas, dont elle ne visualisait pas bien les images, mais qui lui laissaient toujours une forte impression, comme si, après, elle était plus épuisée encore qu'avant de dormir. La journée, on marchait, on chevauchait, on traversait des paysages, mais on le faisait presque toujours en silence, ne parlant que de l'essentiel, que des choses à faire ou à voir, de la nourriture, de l'eau, des routes. Alors Sibylle restait toute la journée dans un étrange état d'inquiétude, souvent enfermée en elle-même, comme si vivait en elle une arrière-pensée, oui, une pensée à l'arrière d'elle-même, toujours présente, toujours en cours, calfeutrée dans un coin de son cerveau tant que durait le jour, et qui surgissait et s'attaquait à elle, se réactivait non pas à la tombée de la nuit, mais après, alors que Sibylle s'enfonçait dans le sommeil et laissait tomber les défenses avec lesquelles elle pouvait vivre pendant la journée. Un matin, elle avait fini d'en parler. Un jour, on reconnaît les rêves, on sait ce qu'ils nous disent, on sait à qui ils s'adressent en nous, et alors il n'est plus question de les partager, de s'en étonner avec des proches. Il est seulement possible de laisser l'onde de choc qu'ils produisent en nous se répandre, s'étendre, nous laissant dans l'hébétude, dans l'écho des mots qu'ils nous ont prononcés et qui agissent en nous de très loin, nous ramenant à une période de notre vie qu'on croyait morte et oubliée. Ce matin, est-ce qu'elle pourrait raconter comment elle a revu sa jeunesse, ce qu'elle faisait en 1993? Une station-service qui était située avenue de l'Alouette, à Tours. C'est ça, tout lui revient. Cette station mobile, qui était le seul endroit ouvert dans lequel elle venait acheter le soir deux ou trois bricoles, elle habitait juste derrière, et où elle discutait avec le garçon qui tenait la minuscule épicerie. Quand la nuit tombait, on voyait, sur le mur principal, face aux pompes, un immense cercle lumineux, très blanc, et à l'intérieur, un Pégase s'élançant dans l'air, un cheval ailé rouge. Elle se souvient du cheval rouge, mais surtout de ce halo si lumineux et de ce garçon qu'elle avait rencontré là-bas, un soir, qui s'appelait Gaël, et qui était motard, et qui, surtout, lui avait souri comme personne ne lui avait jamais souri dans sa vie. Ce matin, Samuel ne parle pas de comment il a été agacé par les deux hommes la veille au soir, comment il a été surtout irrité par son comportement à elle, comment il n'a pas aimé voir sa mère en train de jouer le jeu de la séduction. Samuel se sent de mauvaise humeur, elle le voit tout de suite. Depuis qu'ils sont partis, la seule fois où il avait été vraiment insupportable, ça avait duré 3 jours. C'était après l'attaque des types et la soirée chez Bektash et Jamila. Il avait été furieux de se sentir en danger, de se sentir démuni, vulnérable, de voir que sa mère avait sympathisé et ri avec Jamila, comme si, à chaque fois que sa mère avait un moment où elle pouvait ne pas être uniquement sa mère, il devenait furieux. Pourtant, il va beaucoup mieux. Elle le sent. Il va mieux. C'est-à-dire, lentement, doucement, les choses apparaissent. Il revient vers la vie. Ou plutôt, il commence, pas à pas, à accepter de prendre le temps de regarder autour de lui. C'est comme si tout à coup il découvrait qu'un monde existe qui n'est pas lui, dont il n'est pas le centre. Mais il se réfugie encore beaucoup derrière ses écouteurs. Il partage assez peu de choses avec sa mère. Ils vivent sans vraiment se parler.